Avec vous, Juan Gomez.
Merci, c'était le journal de Nemo en Peace.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
En Ukraine, la guerre est entrée dans sa quatrième année, journée spéciale sur RFI. D'ailleurs, vous retrouverez tout à l'heure à midi 10, temps universel, Andréane Mellard en direct de Kiev avec ses invités et nos envoyés spéciaux. Quant à nous, durant les 20 prochaines minutes, eh bien, nous continuons à répondre à toutes vos questions pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue en ce moment, aussi bien sur le terrain que sur le plan diplomatique. 33 9 693 693 70. Vos questions également sur nos réseaux sociaux. Si on ne parvient pas à vous rappeler, ne vous inquiétez pas, je me ferai votre porte-parole. Ulrich Bouna est toujours à mes côtés, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, chercheur associé chez l'Euro Créative. On va repasser au standard, il y a beaucoup de questions, le sujet intéresse évidemment nos auditeurs. Herman, bonjour.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. Alors, concernant le sujet sur l'Ukraine, j'aurais une question à deux volets.
Oui.
Et ma question est la suivante. Quels sont les pays qui ont donné le plus d'aide financière et militaire à l'Ukraine et à combien s'élèvent ces aides?
Alors, quels sont les pays qui ont donné le plus d'aide financière et militaire à l'Ukraine? Ulrich Bouna, si on en croit Donald Trump, ce sont les Américains, les États-Unis.
Eh oui, mais en fait, il ne faut pas écouter Donald Trump. Donc, effectivement, alors, quand on fait un petit peu le comparatif, grosso modo, les États-Unis et l'Union européenne, tous ensemble, ont donné à peu près la même chose, environ 115 milliards pour les Américains et 130 milliards pour les Européens. Les Américains ont donné, alors, 200, dans ces 115...
Donc, on est globalement à moins de 300 milliards d'aides, bon, ce qui est colossal.
Oui, ouais.
Donald Trump, lui, parle de 350 rien que pour les États-Unis, ouais. Voire parfois il cite 500 milliards de dollars.
Effectivement, donc il espère récupérer 500 milliards avec son fameux accord de raquettes sur les matières premières de l'Ukraine. Mais effectivement, les Américains ont donné à peu près 115 milliards et enfin c'est beaucoup de dons et pas simplement des prêts. Bon bref, mais donc et sur l'aide militaire en revanche, donc sur ces 115 milliards, les Américains ont donné à peu près 50%, 65 milliards d'aide militaire. Les Européens c'est un peu moins, 60 milliards. Donc les Américains donnent effectivement beaucoup, hein, c'est une réalité. Ils donnent surtout des matériels militaires que les Européens auraient du mal à fournir, notamment des missiles antiaériens, les F-16, il faut un feu vert des Américains, même si c'est pas eux qui les fournissent directement. Donc l'aide américaine, elle est colossale, elle est importante, elle est fondamentale, mais effectivement, elle ne représente pas, si vous voulez, l'écrasante majorité, comme le dit Donald Trump.
Ouais, vous parliez de raquettes tout à l'heure, en parlant de la proposition de Donald Trump, qui souhaite effectivement récupérer, dit-il, le montant de l'aide fournie par les États-Unis en échange de terres rares, en échange de pétrole ukrainien. Les sous-sols ukrainiens sont aussi riches que cela?
Alors, ils sont effectivement relativement riches, hein. Il y a des terres rares, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a, voilà...
Quand on parle de terres rares, ce sont des comment dirais-je des
ce sont des minéraux
des, en fait, des minéraux qui sont nécessaires notamment pour la construction
des microprocesseurs, exactement.
Voilà, les batteries électroniques, etc.
Tout à fait. Donc il y a une réalité, hein, il y a une réalité, le sous-sol ukrainien est riche. Il y a en revanche deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que beaucoup de notamment des terres rares se trouvent en territoire occupé par les troupes russes, et deuxièmement, en fait, quand bien même ils seraient en territoire ukrainien, ça nécessiterait quand même des années d'investissement pour aller chercher ces matériels là mais en revanche, quand je parle de raquette, c'est une réalité. La version 1 de l'accord qui a été proposé, c'était 50% de toutes les ressources naturelles de l'Ukraine qui devaient partir aux États-Unis de façon financière, et tout le reste, en fait, il y avait un droit de préemption américain, donc on était vraiment sur une tentative de raquette.
La réaction de Zelensky à cette proposition de Donald Trump?
Alors, elle est compliquée, la réaction, parce qu'effectivement, il ne veut pas brader son sous-sol comme ça, et il n'a pas envie d'être raquetté, mais il ne peut pas non plus dire complètement non à Donald Trump, donc il tente de négocier.
Oui, j'ai eu comme l'impression qu'il changeait de... Voilà, qu'il était un peu plus souple sur cette question depuis hier.
Ce qu'il essaye de faire, finalement, c'est qu'il essaye de dire, grosso modo, de retarder son oui pour obtenir des contreparties, notamment des garanties de sécurité de la part des États-Unis.
Allez, Tossi nous demande sur WhatsApp, les États-Unis peuvent-ils suspendre l'aide à l'Ukraine? Et si oui, l'Europe serait-elle en mesure de compenser la différence?
Alors, c'est une très bonne question. Les États-Unis peuvent, hein, ils l'ont déjà fait lorsque l'accord de financement est resté bloqué au Congrès pendant 6 mois, début 2024, pardon. Mais donc ils peuvent tout à fait. Et est-ce que les Européens peuvent? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, alors, on pourrait compenser une partie, en revanche, certains matériels, notamment, encore une fois, les missiles antiaériens, on ne serait pas capable de le faire à court terme. Mais c'est aussi la raison pour laquelle l'Europe essaye de muscler, on va dire, sa réponse et son investissement militaire pour envisager à moyen terme de compenser ce que ne livreraient plus les Américains.
Je me fais le porte-parole de Thierry qui nous écoute en Centrafrique, à Berberatui exactement. Les sanctions européennes à l'encontre de la Russie ont-elles eu un réel impact? Et est-ce qu'elles contraignent tant que cela Vladimir Poutine?
Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où effectivement les impacts ont été colossaux. Si on prend le gaz, en fait, donc l'entreprise Gazprom qui exportait son gaz par pipeline, notamment essentiellement vers l'Europe, l'entreprise, je ne veux pas dire fait faillite, mais voilà, elle a des pertes colossales parce qu'elle ne peut plus vendre son gaz en Europe. En revanche, il y a d'autres secteurs qui sont moins impactés.
Le pétrole, par exemple.
Le pétrole. Le pétrole, effectivement.
Théoriquement, il y a un embargo européen et occidental pour parler des Américains. Concernant le pétrole russe, j'ai comme l'impression que les Russes continuent à exporter autant de pétrole qu'avant.
Alors, en fait, si vous voulez, alors effectivement, ils continuent à en exporter autant et le prix maximal de $60 qui avait été mis, les Russes l'ont contourné. Mais donc, finalement, plus globalement, pour essayer de répondre à la question, c'est que ça a complexifié les choses dans l'économie russe. Il y a des secteurs qui sont sinistrés. Pour tout le reste, ils sont obligés de contourner, donc ça coûte plus cher pour obtenir des machines-outils, ce genre de choses qui étaient fournies par les Occidentaux. Ils arrivent à en obtenir, mais c'est plus compliqué. Donc, c'est un effet lent, c'est un poison lent, on va dire ça comme ça, qui affecte l'économie russe. Ça ne l'a pas fait tomber, clairement pas, mais ça l'affecte. Les Russes n'ont plus la capacité de faire tout seuls, par exemple, des explorations dans le Grand Nord pour des gisements de pétrole et de gaz. Ça, ils ont besoin de nos technologies et ils ne les ont plus. Pareil, pour fabriquer de l'armement, ils obtiennent des machines-outils de Chine, mais qui sont moins performantes que celles qu'ils obtenaient d'Allemagne. Donc, il y a un vrai impact, mais effectivement, ça n'a pas fait s'effondrer l'économie russe.
Comme certains le prédisaient, notamment le ministre français des Finances de l'époque. 4% de croissance tout de même en Russie.
Oui, alors tout à fait, effectivement.
Je pense qu'il y a beaucoup de pays européens qui aimeraient avoir ce taux de croissance.
Alors, c'est une réalité. Après, il faut bien comprendre que ce taux de croissance, il est porté aussi par une dépense colossale, en fait, de l'État russe dans son appareil de guerre. On est à peu près à 30 à 40% du budget de l'État qui passe désormais dans la dépense militaire. Et ça, en fait, il faut bien comprendre que dépenser de l'argent pour un char qui va être détruit en Ukraine, ça n'a pas du tout le même impact que de vendre un baril de pétrole ou un billion de mètres cubes de gaz. Donc, en fait, à court terme, ça porte l'économie russe, mais effectivement, à long terme, c'est destructeur.
33 9 693 693 70, vous avez la parole, vos questions jusqu'à 9h temps universel, 3 ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Au Togo, on vous écoute avec notre invité Ulrich Bouna.
Qu'est-ce qui explique le rapprochement récent entre Donald Trump et Vladimir Poutine?
Plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que je pense que ce sont deux personnes qui ont des caractères assez similaires et qui ont la même vision du monde. C'est-à-dire une vision du monde qui ne repose pas trop sur les alliances, mais qui est plutôt sur la force brute, projection de force brute. Donc, ils se comprennent assez bien, je pense, par rapport à ça. Je pense qu'il y a une certaine fascination aussi de Donald Trump pour les hommes forts, notamment, pour le coup, Vladimir Poutine en est un. Et puis, l'autre aspect, c'est que, pour le coup, Donald Trump a vraiment envie d'obtenir le plus rapidement possible un accord de paix, quel que soit son contenu. Sur la guerre.
Il avait promis pendant la campagne électorale un accord en 24 heures.
Ouais, voilà, tout à fait. Donc il a revu depuis à 3 mois. Mais voilà, il y a une volonté d'aller très très vite et donc ça suppose de faire un maximum de concessions à Vladimir Poutine et de surtout de reprendre le business pour Donald Trump.
C'est-à-dire.
Alors pour Donald Trump, en fait, la guerre est vue comme un problème pour le business et donc lors de la réunion qui a eu lieu à Riyad la semaine dernière, il y en aura encore une autre cette semaine, il a déjà été question en fait de reprendre des échanges économiques entre la Russie et les États-Unis. Je pense que l'un des objectifs indirect de Donald Trump, c'est aussi de ramener en fait la Russie, d'essayer de casser finalement le lien entre la Chine et la Russie et de ramener du coup la Russie côté occidental, ce qui est à mon sens une utopie totale. Il faut bien comprendre que les régimes chinois et russes sont très proches l'un de l'autre et donc il me semble irréaliste de les casser.
Mais quel virage, Ulrich Bouna, en 10 jours. Joe Biden, rappelons-nous, Joe Biden considérait Poutine comme un criminel de guerre.
Ce qu'il est.
Vladimir Poutine, criminel de guerre, ce qui n'est pas du tout la façon que le nouveau président a de percevoir son homologue russe.
Non, effectivement, je rappelle que Vladimir Poutine est quand même inculpé par la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Donc voilà, mais par contre, effectivement, il y a eu un revirement à 180 total. Et cette réunion à Riyad l'a complètement illustré. Les Russes étaient complètement isolés sur la scène internationale, en tout cas par rapport aux positions occidentales. Et là, effectivement, il y a une espèce de retour en grâce extrêmement rapide.
Riyad, c'était la semaine dernière. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, à côté de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, une réunion à ce haut niveau, je crois que c'était une première depuis le début de la guerre
en Ukraine.
Tout à fait, il
n'y en avait pas eu depuis 3 ans, il y avait quelques contacts entre services spéciaux, mais il n'y en avait pas. Et ce qui était aussi très illustratif, c'est qu'il y avait des milliardaires de chaque côté, ce qui illustre aussi une espèce d'oligarchisation de cette relation entre les Russes et les Américains.
Mamadi, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, merci Juan, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Bien, pourquoi les États-Unis excluent-ils l'Europe des discussions? Et quand il y aura un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, pourquoi il peut y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la sans implication des pays européens?
Ah, alors vous parlez des pays européens, effectivement, Ulrich Bouna. Trump veut négocier directement avec Vladimir Poutine en écartant certes les Ukrainiens, mais aussi les Européens.
Tout à fait, ce qui est tout le paradoxe, effectivement, de discuter de la paix en Europe sans les principaux concernés. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que Donald Trump, encore une fois, voit la force uniquement brute comme un instrument de négociation. Dans ce cadre-là, l'Europe qui est bâtie sur le consensus et la diplomatie, ça ne l'intéresse pas. Et par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que Donald Trump envisage un accord de paix avec Vladimir Poutine, mais envisage de laisser aux Européens la mise en place, c'est-à-dire que notamment les garanties de sécurité, le déploiement de, entre guillemets, casque bleu ou en tout cas de force d'interposition, ça, ce serait laissé aux Européens. Donc, on serait un petit peu les espèces de fourmis travailleuses pour faire l'accord signé entre les deux grands.
Est-ce qu'il ne se contredit pas dans les actes et les paroles? Pendant la campagne électorale, il disait « La guerre en Ukraine ne concerne pas les Américains, c'est une affaire des Européens. À peine arrivé à la Maison-Blanche, il y va. » Et il prend ce dossier à bras-le-corps.
Oui, tout à fait, mais parce qu'il s'est un petit peu lui-même enfermé en disant qu'il allait fournir la paix en 24 heures. Donc je pense que ce qu'il cherche à en faire, c'est effectivement sortir au plus vite, on va dire, le financement américain en obtenant un deal quel qu'il soit avec les Russes et effectivement laisser les Américains s'en débrouiller, les Européens s'en débrouiller.
Ouais. Pour aller un peu plus loin des 2 questions posées par Mamadi, aujourd'hui les dirigeants européens, que peuvent-ils faire? Comment peuvent-ils reprendre la main? Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev avec plusieurs dirigeants européens. Emmanuel Macron est attendu à la Maison Blanche dans les prochaines heures. Il doit déjeuner avec son homologue américain. Que peut faire l'Europe?
Alors, à 27, ça va être compliqué, le temps de se mettre d'accord. Il faut aller très très vite, là, il ne faut pas se mentir. Donc, à 27, ça va être compliqué. En revanche, une coalition de pays volontaires, un petit peu sur le modèle de ce qu'a essayé d'essayer de bâtir Emmanuel Macron en réunissant différents pays européens. Il faut arriver, grosso modo, avec 2 choses pour essayer de peser dans la discussion. Il faut arriver avec, effectivement, des propositions concrètes pour déployer des hommes en Ukraine. Alors, pas sur le front, mais pour garantir, en fait, une espèce d'accord de paix. Premier point. Et deuxième point, il faut s'armer, en fait, parce que les Américains vont partir de l'Europe d'une façon ou d'une autre. Et donc, il faut avoir une espèce de plan de financement de la défense européenne à moyen terme.
Donc, une économie de guerre.
Pas économie de guerre, mais en tous les cas, dépenser beaucoup plus pour sa défense, effectivement, et ne plus simplement se dire que les Américains seront là.
José, bonjour.
Oui, bonjour.
À Bangui, en Centrafrique, on vous écoute avec Ulrich Bouna, notre invité.
Oui, ma participation est que je suis frustré par la réaction des dirigeants européens.
Pourquoi?
Oui, parce que l'Europe devait, ce qu'on attend de l'Europe, l'intérêt de l'Europe, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, son intérêt, c'est l'Europe, c'est rentrer dans l'Union européenne. Et le problème de l'Ukraine, c'est l'Union européenne qui devait être en tête. Mais par contre, ce qu'on voit là présentement, il suffit que Donald Trump arrive avec ses caprices et tout d'un coup, l'Ukraine, est vraiment abattue. Et là, ça donne l'incapacité de l'Europe qu'on peut faire confiance. On doit avoir l'Europe fort.
Une Europe forte. Ulrich Bouna, une Europe forte, dit cet auditeur.
Non, mais effectivement, mais encore une fois, dans un monde où la diplomatie va compter de moins en moins et on sera de plus en plus dans le rapport de force, effectivement, il faut avoir une puissance militaire et pour peser dans le jeu. Et effectivement, il faut reconnaître que les Européens, depuis 30 ans, s'étaient beaucoup reposés sur les Américains. Il y a une volonté de reprendre un petit peu son destin en main, de réinvestir, mais voilà, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut le faire très très vite.
On continue à parler des Européens. Aladin, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Aladin. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Allez-y, on vous écoute, quelle est votre question?
Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des chances de voir des troupes européennes en Ukraine, indépendamment de l'accord auquel pensent les États-Unis? Et si oui, est-ce que ces troupes pourraient-elles changer la physionomie du conflit?
Ulrich Bouna. Alors, j'ai en mémoire encore les propos d'Emmanuel Macron, il y a quasiment un an, jour pour jour, qui disait, bon, en s'agissant de l'Ukraine, tout est envisageable, y compris l'envoi de troupes sur le terrain. On n'a plus entendu parler de ce projet ces 12 derniers mois, et voilà que le dossier est de nouveau sur la table.
Oui, il l'avait posé sur... Et en fait, il avait ouvert une brèche il y a un an, hein, parce qu'il se voyait bien dans quelle direction les choses partaient. Il faut bien comprendre que... et les Américains envisagent comme ça aussi, c'est-à-dire que si un jour il y a un accord de cessez-le-feu, pour éviter que ça reprenne, comme l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN à court terme, il va falloir des garanties de sécurité extrêmement solides. Les Américains, visiblement, ne sont pas prêts à les fournir. Donc la seule façon de les fournir, c'est d'envoyer des hommes sur le terrain. Alors, pas, encore une fois, pas sur les lignes de front, mais probablement plus en arrière, pour, si jamais la Russie décidait de reprendre le conflit, finalement, on serait capable de dire à la Russie, voilà, nous sommes capables d'intervenir parce que nous avons des avions de chasse, etc. Donc oui, il est probable qu'à moyen terme, il y ait des soldats européens qui soient sur le sol, alors sous quel mandat, ça reste à voir, sur le sol ukrainien, mais ça, c'est relativement probable, effectivement. Est-ce que ça pourrait changer au conflit? C'est-à-dire que ça pourrait éviter une reprise de la guerre, parce qu'encore une fois, on va probablement avoir un cessez-le-feu, mais pas la paix.
Ouais, faut que je retrouve le commentaire d'un auditeur, c'est Gildas, qui est au Gabon, et qui s'étonne de voir les Européens évoquer justement envoi de troupes en Ukraine, alors qu'on semble, je cite l'auditeur, on semble se diriger vers une phase de paix.
Alors, en fait, une phase de non-guerre, c'est ça, là, c'est toute la subtilité de la chose, c'est-à-dire qu'un cessez-le-feu est effectivement fort probable, mais effectivement, on pourrait se retrouver, le risque pour les Ukrainiens notamment, c'est qu'on se retrouve dans le cadre des accords de Minsk de 2015, où il y avait eu un cessez-le-feu avec des observateurs de l'OSCE sur les lignes de front, ce qui n'a pas empêché le conflit de reprendre 7 ans plus tard avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Donc les Ukrainiens veulent, en fait, comme ils ne seront pas dans l'OTAN, ils veulent avoir une garantie que si jamais la Russie reprenait les hostilités, quelqu'un serait là pour les arrêter en soutien des Ukrainiens.
Ouais. On parlait de l'Europe. Toussaint veut nous parler, lui, de l'OTAN. Bonjour Toussaint.
Bonjour Juan, bonjour Ulrich, bonjour à tous les techniciens de RFI et à tous les auditeurs.
Merci, on vous écoute.
Je veux savoir s'il est de bon augure que les États-Unis, par l'OTAN, s'installent au bord ou à la frontière de la Russie.
Qu'en pensez-vous, Ulrich Bouna?
Alors, il faut remonter le temps, hein, c'est un peu compliqué. Mais bon, déjà, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas l'OTAN qui s'installe, ce sont les pays limitrophes de la Russie qui demandent à l'OTAN de s'installer. Si on prend le cas de la Finlande ou de la Suède, c'est suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie que ces deux pays-là ont demandé à intégrer l'OTAN. Donc c'est déjà des décisions souveraines. Deuxième point, je rappellerai juste un point. Lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en l'an 2000, il avait proposé, en fait, que la Russie intègre l'OTAN. On l'oublie beaucoup.
Ah oui.
Mais donc, en fait, à l'époque, en fait, il n'y avait pas de problème que la Pologne, par exemple, ou les États baltes soient dans l'OTAN. En fait, lui envisageait une nouvelle architecture de sécurité, et notamment que la Russie intègre l'OTAN. Il se trouve qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, la Russie s'estime en guerre contre l'OTAN parce qu'elle estime qu'effectivement, désormais, l'OTAN lui fait poser un risque. Mais encore une fois, l'OTAN est une alliance défensive et donc elle est présente sur le sol de certains pays effectivement européens à la demande de ces pays-là. Mais l'OTAN n'est pas une puissance normalement agressive. Et donc, effectivement, il y a probablement...
Mais l'OTAN sait bien qu'en se déployant, en allant de plus en plus vers l'est de l'Europe, elle braque...
Oui,
les Russes, Moscou perçoit l'OTAN comme une menace.
Alors, encore une fois, ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Et en fait, il faut bien comprendre aussi que, grosso modo, les déploiements que fait l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est sont en général en réaction à ce que fait la Russie. Par exemple, si je prends les cas de déploiement dans les pays baltes et en Pologne, en fait, c'est dû au fait qu'il y a des missiles balistiques nucléaires qui sont installés par la Russie à Kaliningrad et par le fait aussi que l'espace aérien des pays baltes est violé quasiment tous les deux jours par la Russie. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Le déploiement de l'OTAN dans les pays d'Europe centrale augmente à mesure que la menace russe est de plus en plus présente.
Bon,
c'est l'inverse.
À vous entendre, l'Ukraine, en tout cas, n'est pas prête d'adhérer, de rejoindre l'OTAN.
Non, ça, non. Les Américains sont contre.
Les Américains sont contre. En tout cas, Zelensky, lui, est prêt à démissionner de ses fonctions de président à condition que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN. Merci infiniment, Ulrich Bouna. Le temps est passé très, très vite. On avait encore des questions au standard. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. Demain, c'est Namoury Dossou qui aura le plaisir de réagir et de débattre avec vous. Il sera question du Niger après les résolutions, les recommandations des assises nationales. Bonne journée, à très vite.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, vous faites le point tout à l'heure sur les épidémies en cours.
Oui, Mpox en RDC, Ebola en Ouganda, Marburg en Tanzanie. On va aussi parler du virus de Chikungunya à l'île de la Réunion. Grippe aviaire H5N1 qui sévit aux États-Unis au moment où Washington a réduit drastiquement son aide à la santé globale et les moyens dédiés à la veille des épidémies.